Bonjour à tous, c'est l'autre menace terroriste qui inquiète les services secrets français, celle de l'extrême droite radicale qu'on appelle aussi l'ultra-droite. Depuis 2017, plus de 50 personnes ont été mises en examen et des cellules entières ont été démantelées. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Jacques.
Certaines de ces personnes projetaient de marcher sur l'Élysée et vous allez nous expliquer que ce type de projet, en France, il en existe de plus en plus.
France Inter, secret d'info. Jacques Monin.
C'était le 13 avril dernier. Le visage de Mia, 8 ans, apparaissait sur les écrans de télévision.
Un enfant a été enlevé.
Très vite, les enquêteurs soupçonnent sa mère, qui a perdu la garde de Mia, d'être impliquée dans cet enlèvement, avec la complicité d'une dizaine d'individus.
Voilà un extrait de l'émission Complément d'enquête, dans laquelle il était notamment question de Rémi Daillé-Widman, un homme soupçonné d'être lié à l'enlèvement de la petite Mia, qu'on a finalement retrouvée en Suisse en avril 2021. Rémi Daillé a été mis en examen dans le cadre de cette affaire, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il l'a aussi été pour autre chose, pour avoir projeté rien de moins qu'un coup d'État, un projet que la justice qualifie de terroriste et qui avait un nom assez évocateur, Élodie Guéguin.
Oui. Ce projet s'appelle l'Opération Azur et il visait, figurez-vous, à s'emparer de l'Élysée. L'affaire, qui est toujours à l'instruction au pôle antiterroriste à Paris, est assez tentaculaire. À ce jour, 14 personnes sont mises en examen. 10 d'entre elles, dont Rémi Daillé, donc, sont en détention provisoire.
Alors on va regarder de plus près en quoi il consistait ce projet de coup d'État, Élodie. Mais avant ça, on va se pencher un peu sur le parcours de Rémi Daillé.
Oui, parce qu'il n'a pas été toujours cette figure du complotisme et de la fachosphère. Il est issu d'une famille nombreuse, catholique. Son père a été pendant 20 ans député UDF. Ses frères et sœurs avaient plutôt de bonnes situations, comme on dit. Pour Rémi Daillé, les choses ont été un peu moins simples, avec beaucoup d'enfants à charge. Il en a 10 aujourd'hui. À l'époque, il change assez régulièrement de travail, comme lorsqu'il quitte le Vaucluse, nous raconte son ami de 20 ans, Pierre Claret.
Lorsqu'il est arrivé chez nous, dans la région toulousaine, il avait voulu monter une société de parfumerie, savon, enfin voilà, il préparait des colis et les gens commandaient par internet des savons, enfin voilà.
Ah oui, des savons et du parfum, on est quand même loin d'un coup d'État là.
Oui, alors son ami Pierre Claret, qui est aujourd'hui le porte-parole de Jean Lassalle, vous savez, ce député centriste et candidat à la présidentielle, Pierre Claret avoue qu'il est un peu, et malgré lui, à l'origine des débuts de Rémi Daillé en politique.
Comme j'ai toujours été centriste, j'ai trouvé très intéressant qu'il me présente son papa pour que nous discutions un petit peu de politique et qu'en parallèle, il puisse aussi éventuellement me présenter François Bayrou. Et au bout d'un mois, il est venu me voir en me disant « Bon, bah, écoute, tout compte fait, moi aussi j'ai envie de m'intéresser à la politique et je pars avec toi voir François Bayrou ». C'est comme ça que ça s'est passé. Alors comme j'avais vu qu'il n'avait aucune formation politique, je lui avais dit bah, « Écoute, je serai ton conseiller et éventuellement ton directeur de communication ». Il était intéressé par l'idée de faire quelque chose pour la France, mais il ne savait pas trop comment s'y prendre.
Et donc ils veulent faire de la politique ensemble. Et cet attelage, Pierre Claret, Rémi Daillé, Élodie, ça donne quoi ?
Eh bien, dans un premier temps, ça fonctionne, hein, puisque Rémi Daillé remporte une élection interne et devient le patron de la fédération du Modem en Haute-Garonne. Mais très vite, ça se gâte parce que François Bayrou et les cadres du parti jugent le personnage, disons, hors des clous.
C'est-à-dire ?
Alors un exemple, quand il décide de faire la grève du froid en soutien aux salariés de Molex, c'est l'hiver, il reste un mois entier en chemise, dans sa voiture, sur le parking de l'usine. Les syndicalistes ne voient pas ça d'un bon œil, estimant qu'il accapare la lumière et les médias. Et peu après, François Bayrou décide de l'exclure du Modem, ce qui n'étonne pas alors son ami et collaborateur Pierre Claret.
C'était un doux rêveur. Moi, je le voyais homme de théâtre au départ, hein. Je le voyais pas du tout dans la politique. En politique, il faut avoir un minimum de base culturelle qu'il n'avait pas. Ben, les politiques le voyaient bien, quoi, hein. Donc, évidemment, il passait plus pour un rigolo ou un homme de théâtre que pour un vrai politique.
Et ce rigolo ou cet homme de théâtre, qu'est-ce qu'il va faire ensuite ?
Alors il part s'installer en Asie avec sa grande famille. Il lance des blogs qui prônent notamment l'école à la maison, c'est de ça qu'il vit. puis à partir de 2019, depuis la Malaisie, il commence à publier des vidéos où il annonce qu'il va mener une révolution en France. L'essayiste spécialiste du complotisme, Tristan Mendès France, se souvient d'avoir lu les 81 mesures de Rémi Daillet pour un coup d'État.
Il expliquait en gros par le menu quel était le programme politique qu'il voulait mettre en place. En gros, renverser le gouvernement et installer une sorte de gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, avec tout un fatras de référentiels complotistes. Et cette vidéo, ou ces premières vidéos programmatiques qu'il met en ligne, n'est pas vraiment perçue par certains analystes dont je suis, comme quelque chose d'inquiétant. C'était un profil que j'ai perçu, en tout cas au début, comme une sorte de personnage clownesque, à peine crédible. J'en riais, pour être tout à fait honnête.
Ouais, il en riait, et c'est vrai que quand on regarde certaines de ses vidéos, Élodie, on est aussi tenté d'en rire.
Comme dans ce passage que je vous propose d'écouter, Jacques, où il est question de son projet de révolution.
Ça va commencer en France. Ça n'a pas marché aux États-Unis, ça va commencer en France. Et c'est ce que j'ai fait dire à Trump. Je lui ai dit, vous devriez vous intéresser à ce qu'on fait parce que c'est ici que ça va se passer. Et je l'ai dit à Poutine aussi. Et le moment venu, ils ne seront pas aux abonnés absents.
Ah oui, donc Rémi Daillet dialogue avec Trump et Poutine.
Oui, ça peut paraître complètement farfelu, mais ce discours, eh bien, il attire, il séduit, il convainc des milliers de personnes qui s'abonnent aux chaînes de Rémi Daillet. Comme le remarque à l'époque le journaliste pour Street Press et Libération, Maxime Massé, qui est spécialiste de l'extrême droite radicale.
On va se rendre compte rapidement que beaucoup de gens, notamment dans les commentaires, sont galvanisés par le discours de Rémi Daillet. Ils y voient vraiment un espoir. C'est assez hallucinant de penser ça, mais dans les premières vidéos, il dit « le putsch arrive ». Et en fait, ça n'arrive jamais. Mais les gens sont tellement persuadés qu'il incarne une espèce d'espoir qu'ils passent au-dessus de ça.
Oui, ces gens sont donc de plus en plus nombreux, sauf qu'à force d'avoir du succès, Rémi Daillet, il va attirer l'attention.
Oui, il va être détecté par les gendarmes en France et précisément par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Il existe depuis un an dans cet office une division qui s'occupe des crimes de haine en ligne. La lieutenant-colonel qui dirige cette division dit avoir repéré assez vite la violence potentielle des messages postés par Rémi Daillet.
Dans le discours de Rémi Daillet, il y avait beaucoup de choses. Il y avait effectivement des infractions qui relèvent de notre champ de compétences, et notamment les faits de provocation à la haine et à la violence, puisque c'était quand même là-dessus qu'était fondé notamment son discours. On s'était assez vite rendu compte que on avait un nombre de vues assez exponentiel sur un temps assez réduit. C'est effectivement ce qui avait attiré notre attention. Rémi Daillet était présent, il avait sa chaîne YouTube, mais pas que, il était présent sur bien d'autres plateformes. On va pas dire que parce qu'il y a peu de vues, il y a peu de risques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus il y a de vues, plus il y a de risques.
Oui, mais entre faire de l'agitation dans des vidéos et préparer un coup d'État, Élodie, il y a quand même un gouffre, non ?
Oui, mais peu à peu se structure autour de lui une organisation. Les enquêteurs découvrent un mouvement hiérarchisé avec une branche civile censée s'occuper de la propagande et une branche militaire qui aurait été chargée de coordonner l'assaut sur l'Élysée le jour J. D'ailleurs, sur le site internet de Rémi Daillet, il était demandé à des sympathisants de s'aguerrir, comme dans cet extrait que nous avons fait lire.
Inscrivez-vous dans le formulaire sur le site, vous serez averti des événements. En attendant, vous devez vous entraîner, travailler par exemple sur de petites cibles comme les antennes 5G.
Les antennes 5G, mais il veut dire quoi précisément ?
Alors on peut penser qu'il s'agissait de détruire des antennes 5G. L'un des mis en examen dans ce dossier est d'ailleurs soupçonné de sabotage. Mais ça devait aller encore plus loin, raconte Maxime Massé. Voilà ce que se disaient, selon lui, certains membres du réseau.
Ça me fait un bon entraînement le jour où je vais devoir faire exploser un centre de vaccination ou m'en prendre à une personnalité considérée comme un collabo, c'est-à-dire une personnalité politique, un médecin, voire un journaliste, souvent estimé comme étant soit franc-maçon, soit juif, mais qui devrait, au moment de la prise du coup d'État, être capturé. Alors, il n'est jamais question de les exécuter, mais de leur faire avouer leurs crimes contre la France. Donc on imagine que c'est une séance d'autocritique qui doit être assez violente. Et effectivement, il y a quand même des repérages qui avaient été faits autour du domicile de certaines personnalités ou du domicile présumée de certaines personnalités. On pense à Jacques Attali ou à des journalistes comme Patrick Cohen ou Christophe Barbier.
Ah oui, ça commence effectivement à devenir très préoccupant là, mais ça ne s'arrêtait pas là.
En effet, son idée à Rémi Daïès était de destituer le président de la République et il s'attendait même, semble-t-il, à ce que des personnalités de poids se rallient à son projet. Fin 2020, il envoie ce message vocal à son ami Pierre Claret pour lui demander un service.
Pierrot, c'est Rémi. Dis-moi, ça bouge énormément. Alors, il me faut d'urgence le contact de Éric Zemmour. On est favorable à prendre contact avec Éric Zemmour. Donc, merci de nous donner ses coordonnées avec son autorisation.
Ah oui, donc Rémi Daïès cherche à joindre Éric Zemmour.
Oui, alors ça ne veut pas dire pour autant qu'Éric Zemmour le connaissait. Mais à ce moment-là, Rémi Daïès est convaincu que le polémiste pourrait adhérer à son mouvement. Et voilà ce qu'il demande à son ancien camarade du MoDem, Pierre Claret.
Il m'a appelé en me disant, on va regarder ce que je fais sur Internet, tu verras, c'est exceptionnel. Il y avait plus de 300 000 vues. Puis après, il m'a relancé en me disant, écoute, voilà, j'aimerais bien que tu sois mon représentant en France. De là, bon, moi, je lui ai expliqué que, déjà, d'une part, je trouvais que c'était dangereux ce qu'il faisait, qu'il risquait de finir en prison, et que, d'ailleurs, c'était nous qui allons partir en prison les premiers, puisque nous étions sur le continent, et que lui, là-bas, de Malaisie, c'est sûr qu'il était plus ou moins protégé.
Quand il vous demande d'être son représentant en France, c'est pour faire quoi ?
Le projet, c'était vraiment d'aller à l'Élysée, c'est-à-dire de considérer que Macron devait démissionner.
Mais par la force, s'il le fallait ?
Alors bon, là, c'était un peu vague, puisqu'il n'osait pas m'en parler réellement, mais il me disait qu'il y avait en effet des militaires qui étaient derrière, qu'il y avait tout un staff qui était prêt à renverser, à suivre Rémi.
Et ce staff, il existe vraiment ?
Il y a effectivement des militaires qui sont soupçonnés d'avoir cherché à recruter, notamment parmi les forces de l'ordre, des gens capables de passer à l'action et de manier des armes. Deux de ces anciens militaires sont aujourd'hui mis en examen, comme cet ex-gradé dont nous parle le journaliste Maxime Massé.
Dans le groupe de Rémi Daïès, il y a quand même une personnalité qui est lieutenant-colonel, qui a été décoré de la Légion d'honneur, qui a eu un parcours militaire glorieux. Mais c'est quelqu'un qui va se laisser convaincre par le discours de Rémi Daïès. Et il va se lancer dans ce projet, presque, j'ai envie de dire, à corps perdu, entre guillemets, même s'il va parfois y avoir des frictions avec Rémi Daïès, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont quand même un petit peu farfelues, mais il va tomber à pieds joints là-dedans.
Alors je précise que les avocats de cet ancien gradé évoquent un moment d'égarement. L'homme s'est éloigné du mouvement de Rémi Daïès en raison notamment des projets d'enlèvement d'enfants.
Oui, projets qui déboucheront notamment sur l'enlèvement de la petite Mia, qui sera suivi de la mise en examen de ceux qui y sont mêlés, de près ou de loin. Mais Rémi Daïès, lui, Élodie, il reconnaît son implication dans cette affaire de coup d'État.
Alors, il nie avoir planifié tout projet d'action violente. Son avocat, Jean-Christophe Basson-Larbi, soutient qu'il voulait une révolution pacifique et qu'il n'a rien à voir avec ceux qui sont passés à l'acte.
Il faut quand même garder en tête que Rémi Daïès, il est en Malaisie avec sa famille, que tous ces gens-là, tous les mises en examen, tous les mises en cause et tous les sympathisants qui, à un moment ou à un autre, ont rejoint le mouvement politique La Nouvelle France en cliquant sur un site internet et en échangeant par des messages ou des emails, tous ces gens-là n'ont jamais vu Rémi Daïès. Il y a des perquisitions pour tout le monde dans le dossier. On trouve des armes, on trouve des cibles. Rémi Daïès, on ne trouve rien. Aujourd'hui, Rémi Daïès-Wiedmann est un prisonnier politique.
Un prisonnier politique, et c'est crédible ça ?
Eh bien, en tout cas, ça ne convainc pas vraiment les services d'enquête et de renseignement. D'ailleurs, en se baladant sur l'un des sites internet où Rémi Daïès appelle au renversement d'Emmanuel Macron, il est clairement question de violence. C'est écrit noir sur blanc, nous en avons fait lire un passage.
Ne perdez pas votre temps en discutaille. On va faire un coup d'État. Vous comprenez ce que ça veut dire ? On va avoir des tués. On n'est pas une réunion LGBT ni Europe Écologie. Vous suivez les instructions, vous vous entraînez, vous allez sur le terrain si vous êtes dans les sections d'assaut et vous fermez la bouche. C'est la guerre. Ils vont vous mettre un couteau sous la gorge. Vous, si je vous donne un fusil, vous allez discuter ? Moi, je ne veux pas de parleurs pour faire une révolution. J'écrème. Les balles vont siffler et les parleurs feraient mieux de rester derrière.
Voilà, je vous laisse juge de ces propos qui se trouvaient donc sur le site de Rémi Daillé.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors on a évoqué un projet de putsch à l'Élysée, Élodie Guéguin, mais en poursuivant leur enquête sur Rémi Daillé, les services de renseignement français pensent avoir découvert un autre projet qui, lui, visait à commettre un attentat.
Oui, ils ont repéré une cellule baptisée Honneur et Nation, basée dans l'Est de la France, qui était en contact avec Rémi Daillé et avec un autre idéologue d'extrême droite, un Français installé aux États-Unis. Cette cellule avait monté une opération nommée Projet Alsace, et elle prévoyait, selon les enquêteurs, de faire exploser une loge maçonnique en Moselle. Écoutez sur ce point le journaliste Maxime Massé.
Ces gens qui sont à l'intérieur du groupe Alsace, en fait, ils sont articulés autour d'un groupe de skinhead qui s'appelle Honneur et Nation. Ce groupe Honneur et Nation va un petit peu se mettre au service de Rémi Daillé parce que convaincu que ses thèses sont viables. Et notamment tout le volet anti-maçonnique et antisémite qu'on retrouve chez Rémi Daillé. Et la volonté de passage à l'acte, elle est manifeste. C'est des gens qui ont cherché des explosifs, c'est des gens qui s'apprêtaient à fuir après dans la forêt, se mettre au vert en fait pour échapper à l'enquête policière qui allait suivre.
Et pour ce projet d'attentat, Jacques, 5 personnes ont été arrêtées et placées en détention, 4 hommes et une femme âgées de 26 à 57 ans.
Et Rémi Daillé, lui, là-dedans, c'était quoi son rôle ?
Aucun, assure son avocat. Il y aurait peu d'éléments matériels qui le relieraient à ce groupuscule, seulement quelques contacts téléphoniques retrouvés par la DGS.
Oui, mais ça laisse quand même penser qu'il a pu séduire des personnes qui, elles, appartiennent à cette sphère des néo-nazis.
Oui, mais pas seulement. Rémi Daillé, en fait, a agrégé autour de lui des groupes de personnes d'horizons très divers et notamment pas mal d'anciens gilets jaunes, nous a-t-on confié dans les services de renseignement intérieur sous couvert d'anonymat. Voici précisément ce qu'on nous a dit.
Nous pensons que les gilets jaunes sont un événement assez fondateur, avec des communautés qui se créent, des gens qui se rencontrent sur les ronds-points, dans les manifs. Ces personnes sont rentrées dans une sorte d'engagement politique et elles ne venaient pas forcément au départ de l'ultra-droite. Ensuite, le truc s'est éteint, mais tout ce noyau dur de gilets jaunes qui avait ce sentiment de haine, ce ressentiment à l'égard de l'État et du système en général, il n'a pas disparu. On voit que ces individus-là, depuis quelques mois, ont été soit infiltrés, soit sont allés spontanément vers des réseaux imprégnés d'idéologies d'ultra-droite violentes.
Donc on retrouve certains gilets jaunes autour de Rémi Daillé, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs pour autant, et on va le préciser, Élodie, que tous les gilets jaunes appartiennent à cette mouvance.
Bien sûr, mais il y a quand même un point commun qui rassemble ces personnes. C'est un rejet de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire.
C'est-à-dire ?
Eh bien, plusieurs membres du réseau de Rémi Daillé, et notamment ses anciens gilets jaunes dont on parlait, ont été recrutés pendant des manifestations organisées devant le ministère de la Santé par les Patriotes, le mouvement fondé par Florian Philippot, comme nous le raconte encore Maxime Massé.
Une bonne partie du premier cercle des fidèles de Rémi Daillé ont été recrutés au sein de ces manifestations-là, de Florian Philippot. Alors évidemment, Florian Philippot n'y est absolument pour rien, mais il a créé un terrain favorable au recrutement de ces personnes. Et de la même façon que ce qui s'est passé à Paris lors de la mobilisation, on a vu ce bloc d'une centaine de militants néo-nazis, néo-fascistes et plus généralement d'extrême droite radicale, il y a des gens qui peuvent être fascinés par ces gens-là qui vont aller les voir, qui vont aller leur parler et ça va devenir un vivier de recrutement pour eux.
Et un vivier de recrutement qui rappelle un peu d'ailleurs ce qu'on a pu observer dans un autre grand pays.
Oui Jacques, c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est ce que nous explique le spécialiste des complotismes, Tristan Mendès-France.
Cette bascule, on l'a vu de façon assez spectaculaire aux États-Unis, où la mouvance QAnon, qui est une mouvance complotiste, qui a absorbé d'ailleurs tout le discours anti-vaccin et tous les délires complotistes autour de cette séquence sanitaire, eh bien, les plus grands influenceurs, notamment sur Telegram, le plus grand influenceur QAnon, est devenu le principal porteur des discours nazis sur Telegram. Et il l'est devenu simplement par porosité. Eh bien, on a un peu les mêmes travers dans ces communautés anti-vaccins où certains d'entre eux commencent à s'acclimater à des discours extrémistes, à des discours néo-nazis et négationnistes.
Ouais, des discours qui se répandent donc également chez nous. Il semble d'ailleurs qu'ils pénètrent de plus en plus d'esprits au point qu'ils préoccupent les services de renseignement. Mais ça, on va le voir dans quelques instants. Rolling up the vote, I told my Benson. England's blowing smoke and needs attention. Could use a lick of paint and change a color before they send us back across the water. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but they won't stand down no matter what you say or do. How do you learn to love if you're not taught to? You dream of freedoms on a curfew. Paying the price to live in our skin is wearing me thin. Who's got love for the taking? Who's got a heart for the aching? No such thing as a kingdom when tomorrow's done for the children. They chop it up and divide. So meet me at the borderline where the burning just have been taking toll. We row, we row, we row the boat. We row, we row, we row the boat. Gambling the heartbreak of a nation. Breaking up the euros at the station. Visiting the bank for bread and butter. Don't want to see no doctor when we suffer. Think I got a neighbor that's been feeling. Symptom, fucking with a kingdom that never fought for you. Une ligne de basse entêtante pour une chanson très rythmée, c'était Kingdom, extrait du premier album de la très prometteuse chanteuse britannique Joy Crooks.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et retour à notre enquête bien moins réjouissante, c'est vrai, Élodie Guéguin. On a vu ce qu'était l'opération Azur envisagée par Rémi Daillé, on a parlé d'un projet d'attentat en Moselle, mais ce qui inquiète en fait, c'est que ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres.
Oui, en fait, Jacques, ça fait plusieurs années que la menace terroriste d'extrême droite en France inquiète, surtout quand on voit ce qui se passe dans d'autres démocraties. Écoutez ce que disait le coordonnateur national du renseignement, Laurent Nunez, en septembre dernier sur CNews.
Vous savez qu'aux États-Unis, ces 10 dernières années, il y a eu plus de victimes du terrorisme d'ultra-droite que du terrorisme islamiste sunnite. Regardez, en Allemagne, un préfet a été assassiné. Au Royaume-Uni, une parlementaire a été assassinée en 2016. Donc voilà, c'est une menace qu'il faut prendre très au sérieux et c'est ce que font les services de renseignement.
Et avec des résultats ?
Alors officiellement, une petite dizaine d'attentats ont été repérés et stoppés par les services depuis 2015, dont un projet d'attaque au couteau contre le président Macron. Quelques chiffres encore, Jacques. Depuis 2017, 11 informations judiciaires en lien avec le terrorisme d'extrême droite ont été ouvertes, 12 personnes ont été condamnées et 52 sont actuellement mises en examen.
Oui, puis il y a eu récemment un procès assez emblématique.
Oui, le procès d'un groupe qui se faisait appeler OAS. Il s'est tenu à l'automne, ce procès. Son fondateur, Logan Nizin, était un jeune admirateur d'Anders Breivik, vous savez, le néo-nazi qui a tué 77 personnes en Norvège. Logan Nizin a été condamné à 9 ans de prison. Cet ancien membre du service de sécurité de Jean-Marie Le Pen aurait basculé dans la radicalité au moment de la vague d'attentats de 2015, nous explique son avocat Éric Bourlion.
Il y a un événement majeur pour ce qui concerne bon nombre, je pense, c'est Charlie Hebdo. C'est ces attentats-là qui ont fait en sorte que ces jeunes ont commencé à fulminer l'idée que notre République n'était pas capable d'empêcher cela. Et ils se sont dit, voilà, ces extrêmes-là sont aux portes de la France, ou voire à l'intérieur, et il faut s'armer pour les combattre. Voilà le déclic. Quand vous triturez les idées à ces jeunes gens qui ont un esprit nationaliste extrêmement poussé, on en arrive à effectivement ce type de sentiment qui ferait en sorte que le troisième Reich serait la solution.
Ouais, alors on va pas généraliser, Elodie, mais c'est vrai que dans de nombreux de ces dossiers, on n'a plus de discernement et en fait c'est souvent la communauté musulmane qui est visée.
Oui, Jacques, c'est le cas notamment dans un autre dossier assez emblématique, celui du groupe radical AFO, dont on avait déjà parlé dans Secret d'Info et qui prévoyait, selon l'accusation, des actions violentes, comme le rappelle le journaliste Maxime Massé.
AFO, ils sont passés par différents projets. Parmi les premiers, c'était de s'en prendre à des imams qui considéraient comme des imams radicaux qui prêchaient la haine en France. Incapables de trouver ces imams, ils se sont dit « on va s'en prendre à des femmes voilées ». On va s'en prendre à des hommes en camis qu'on va suivre à la sortie des mosquées. Parce que de toute façon, ce sont des musulmans, ce sont l'ennemi. Après, ils vont essayer de se fournir en armes. Ils vont se rendre dans une cité à proximité de la région bordelaise et ils vont demander où est-ce qu'ils peuvent acheter une Kalachnikov. Et après, il y a ce fameux projet d'empoisonner de la nourriture halal dans des supermarchés.
Ouais, ça fait froid dans le dos. Mais ces groupes-là ne ciblent pas que des musulmans soi-disant en réaction à Charlie Hebdo.
Non, par exemple, le groupe OAS dont on parlait tout à l'heure. Il aurait voulu s'en prendre aussi à des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon ou Christophe Castaner. Mais selon Gabriel Duménil, l'un des avocats des accusés, le groupe n'aurait jamais mis son projet à exécution.
Lorsqu'on prend le dossier, on comprend qu'il n'y a eu absolument aucune espèce de projet contre M. Mélenchon. Pas plus que contre M. Castaner. Il y a eu des paroles qui ont été prononcées par certains protagonistes, des paroles qui sont choquantes, je le dis très franchement, mais qui ne rentrent pas dans un cadre pénal. Allons au PMU tous les jours, allons écouter ce que disent les gens, c'est pas bien, mais ce n'est pas une infraction pénale. Et la frontière est très ténue dans ces dossiers, entre ce qui relève d'un racisme le plus crasse et qu'on voit tous les jours fleurir, et une action violente ou un projet d'action violent qui dépasse très largement cette idée.
Ouais. Bon, tout ça doit se discuter, mais en tout cas, lui estime qu'on serait donc dans le domaine, si je reprends ses propos, d'une expression condamnable, mais pas pour autant répréhensible.
Alors, c'est effectivement son avis, et d'autant plus que pour cet avocat habitué aux dossiers d'extrême droite radicale, les paroles ou les pensées des mises en examen ne sont pas très éloignées, finalement, de certains discours politiques qui fleurissent en ce moment et qui font état d'un risque de guerre de civilisation.
Ce discours de chaos est passé dans une légitimité politique. Je vous rappelle que Xavier Bertrand parlait d'un risque de guerre civile, sans parler de M. Zemmour, qui considère que nous sommes au bord d'une guerre civile, qu'elle va arriver. Bah, si vous voulez, c'est pas très éloigné de ce que disent un certain nombre de clients dans ces dossiers-là. En vérité, je veux me préparer. Comment je fais pour me préparer s'il y a une guerre civile? Bah, il faut que j'ai des armes, il faut que je puisse être prêt.
Et ces gens qui veulent être prêts, comme il dit, ils ont tous un profil identique?
Eh bien non, on est loin de l'image qu'on pourrait avoir des groupes de skinheads dans les années 80, par exemple. Alors bien sûr, il y en a, mais dans les affaires récentes, les profils sont hétéroclites. Vous avez beaucoup de personnes de plus de 50 ans, des gens instruits, insérés socialement, des femmes aussi. Et on l'a déjà dit, pas mal d'anciens militaires de carrière.
Oui, puis on parlait du café du commerce tout à l'heure, mais il y a une grande différence avec ce qui se passait avant, Élodie. C'est que désormais, Internet, avec ses forums et ses réseaux sociaux, sert de chambre d'écho à ces discours de haine.
Oui, on trouve désormais beaucoup de sites racistes, antisémites, glorifiant les actions des nazis, avec parfois sur certains des clips de propagande très bien faits qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'État islamique, par exemple. Des émissions de radio aussi, où des animateurs déversent leur haine, des juifs, des arabes, des noirs ou encore des francs-maçons.
Oui, c'est notamment le cas sur un site en particulier.
Oui, sur un forum qui s'appelle Europe Écologie Les Bruns. Alors attention, ce qui va suivre véhicule des idées condamnables. Mais pour comprendre ce qui se passe en ce moment, il nous semble nécessaire de vous faire entendre ce court extrait d'une émission où des militants évoquent la campagne présidentielle en cours.
Faut accélérer en fait. Faut un truc qui bouge quoi. Zemmour, pas Zemmour, j'en ai rien à foutre. Donc là, ça bougeote quoi, ça bougeote à moitié. Moi, je suis sur une ligne ouvertement accélérationniste. Faut accélérer plein gaz.
Moi, idéalement, j'aurais aimé un deuxième tour. État islamique, Zemmour, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Bon, voilà.
Ouais, effectivement, on voit le genre. Mais c'est quoi un accélérationniste ?
Eh bien, ce sont des gens qui souhaitent une guerre civile dans un futur proche, comme nous l'explique encore le journaliste Maxime Massé.
Les accélérationnistes, c'est une frange des terroristes d'extrême droite qui pensent que actuellement nous vivons dans un chaos racial. Ils veulent en fait précipiter la guerre, qui sera effectivement raciale elle aussi, ou ethnique, pour rétablir un ordre racial blanc, une suprématie blanche. Alors on est quand même sur une portion congrue des potentiels terroristes d'extrême droite français. Pour autant, il y a quand même de plus en plus de dossiers qui sont traités où apparaissent des notions d'accélérationnistes.
Mais s'ils véhiculent des idées aussi nauséabondes, ces accélérationnistes, Élodie, alors pourquoi on ne ferme pas leur site ?
Alors ça arrive, mais ce n'est pas si simple, hein, parce que ces sites, Jacques, renaissent souvent très vite de leurs cendres. Prenons l'exemple de ce forum, Europe Écologie Les Bruns. Il a succédé à un site qui avait été supprimé et dont l'administrateur se cache à l'étranger et fait l'objet d'une notice Interpol. En fait, ce qui intéresse la justice, c'est d'arrêter les responsables de ces forums, explique la lieutenant-colonel qui dirige la division contre les crimes de haine à la gendarmerie.
Ce qui nous intéresse effectivement, c'est d'aller chercher les têtes pensantes. Ceux qui ont soit créé le site, soit ceux qui en sont les administrateurs, soit ceux qui en sont les principaux contributeurs, de manière à faire cesser les comportements. Alors effectivement, on n'est pas non plus naïf. On sait très bien que les gens qui sont aujourd'hui sur le forum d'Europe Écologie Les Bruns, que ces individus-là qui sont sur le forum iront trouver un autre espace de discussion dans lequel ils pourront à nouveau échanger sur le sujet. Mais il faut quand même faire en sorte que on rende en tous les cas de plus en plus difficile l'accès à ce type de forum.
Ouais, pour éviter la propagation de leurs idées. Mais paradoxalement, Élodie, ce ne sont pas ces individus-là qui inquiètent le plus les services de renseignement.
Non, parce que finalement, ces personnes qui se constituent en groupe, qui échangent sur des forums, bien sont identifiables ou repérables. Il y a plus de chances de les arrêter avant un éventuel passage à l'acte. Non, ce que craignent vraiment les services, ce sont les individus isolés, comme ce jeune ancien militaire qui a été condamné le 28 janvier à 9 ans de prison. Lui avait acquis des armes et fait des recherches sur des lieux où se réunissait la communauté juive. Et des exemples comme ça, eh bien, ils se sont multipliés, comme nous le raconte une source au sein du renseignement dont nous avons fait lire les propos.
On a eu ce cas il y a quelques semaines en Seine-Maritime d'un jeune déscolarisé, un peu paumé, qui depuis quelques mois s'était totalement imprégné d'idéologie nazie. On pense qu'il avait un projet d'action contre une mosquée du Havre et dans son ancien lycée. Ce sont des profils qui ont souvent une fascination pour l'ultra-violence, le meurtre, le sang. On a un gamin qui nous dit qu'il avait un projet de passage à l'acte entre les deux tours de l'élection présidentielle le jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler. En fait, ce type de profil individuel nous inquiète vraiment en ce moment.
Effectivement, plutôt inquiétant. Mais des profils de ce type, Élodie, il y en a beaucoup.
Alors c'est difficile à dire, hein. Il n'existe pas de fichier pour la radicalisation d'ultra-droite, comme il peut en exister par exemple pour la radicalisation islamiste. La DGSI évalue à 1500 ou 2000 le nombre de personnes d'extrême droite ayant une appétence, si on peut dire, pour la violence. Quelques dizaines de personnes, une petite centaine tout au plus, nous dit-on, serait susceptible de fomenter des actions terroristes.
Ce qui est déjà suffisamment préoccupant. Bien, merci Elodie Guéguin pour toutes ces précisions. Alors, je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Dibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Ludovic Asselot. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.